I am your voice.
Manantum.
Nous sommes deux vieilles nations dans le monde.
Le Royaume-Uni et la France.
لن يتحقق لكم سلام بالعدوان وإن هذه الدماء
بالله بالدم
تكون لعنة عليكم
نفديك يا أقصى.
إن المعركة ليست معركة فرد وليست معركة جيش وإنما هي معركة شعب ومعركة أمة بأسرها.
بيوتكم في انتظاركم، مساجدكم في انتظاركم، كنائسكم في انتظاركم، فهم لكم ولأولادكم.
Vous écoutez L'Histoire en Marche, un programme réalisé par Jalel Akhdar, coordonné par Samir Hahel et Marim Abdou pour vous accompagner au micro. Les affrontements entre l'armée syrienne et les forces démocratiques syriennes kurdes, alliées traditionnelles des États-Unis contre Daesh, ont conduit à des invasions partielles des prisons et des camps tels que le camp de Hasake et Shadadi. Ces évasions ont poussé Washington à opérer durant ce mois une opération de transfert des détenus de Daesh de la Syrie vers l'Irak. Baghdad gère cette opération de transfert via un comité sécuritaire dédié à des procédures judiciaires appliquées à tous, indépendamment de la nationalité. Le premier ministre irakien Mohammad Soudani qualifie les transferts de temporaires et appelle les pays concernés à rapatrier leurs ressortissants. Ces opérations de transfert ont lieu au moment où des élections parlementaires sont gérées par les instances intérimaires. Nour el-Maliki ne semble pas faire l'unanimité.
La dernière fois que Maliki était au pouvoir, le pays a sombré dans la pauvreté et le chaos total. Cela ne doit pas se reproduire.
Avec nous en ligne à partir de Baghdad, Dr Aed el-Hilali. Docteur Aed el-Hilali, shukrani hudurikum ma'ana, Sayyidi. Aed el-Hilali est conseiller irakien, proche de Mohammad Soudani, chef du gouvernement d'Irak par intérim. Docteur Aed el-Hilali, le nom de Nour el-Maliki a été présenté, mais il ne semble pas faire consensus. La wujud li tawafuq hawla tarashuh Nour el-Maliki.
Alors, Monsieur el-Maliki a longtemps été perçu comme l'une des figures susceptibles de piloter l'action politique au sein de l'État irakien, d'autant que l'Irak traverse des circonstances et des défis particulièrement graves. L'homme a déjà exercé le pouvoir durant deux mandats et demeure l'un des piliers du processus politique depuis 2003. Toutefois, il semble que les contacts américains avec les décideurs de la scène politique irakienne, qu'il s'agisse du gouvernement ou des blocs politiques, et fait obstacle à cette perspective à la suite du message publié par M. Trump, dans lequel il a affirmé, de manière un peu plus explicite, que les États-Unis ne s'accorderaient pas avec l'Irak si celui-ci s'orientait vers la candidature d'El-Maliki.
بالرغم من هذا رشح الإطار التنسيقي نور المالكي لرئاسة الوزراء مستندا إلى خبرته كما يقال وسط دعم كردي جزئي. هل هذا يعني بأن هنالك تجزئة في الطبقة السياسية بالعراق؟ Docteur Aed el-Hilali, en dépit de cela, un cadre coordonné politique au sein du Parlement irakien a présenté Nour el-Maliki comme candidat, prétextant ou mettant en avant son expérience. Est-ce que cela n'est pas un signe de division politique structurelle ?
Oui, madame. Cela s'est produit jusque dans les rangs de la maison chiite et du cadre de coordination. Ce dernier n'a pas opté pour la désignation de M. el-Maliki par consensus, mais à la majorité, une majorité perçue à mon sens comme une impasse politique susceptible de menacer l'ensemble du processus politique. Dieu merci, les choses ont évolué dans ce sens, mais il est certain que la situation changera dans les jours à venir à la lumière du refus américain manifeste et des réticences exprimées au sein des blocs politiques des trois grandes composantes. En effet, certaines forces politiques de la maison chiite ne souhaitent pas la candidature de M. el-Maliki. Il en va de même dans le bloc sunnite, ainsi que des formations kurdes, peu encline à soutenir sa candidature, ni le cadre de sa coordination en sa faveur. Cette équation peut toutefois être résolue, car très clairement, la figure de M. Mohamed Jia al-Soudani apparaît comme la plus consensuelle et la mieux indiquée. Je pense que sa candidature sera à nouveau retenue, compte tenu de l'expérience solide qu'il a acquise au cours des dernières années et de la rectitude avec laquelle il a exercé ses fonctions.
نعم ولكن ألم يكن للولايات المتحدة الأمريكية دورا في التأثير على أخذ القرار السياسي بالعراق؟ الولايات المتحدة الأمريكية ترفض نور المالكي وتتدخل يعني في الشأن الداخلي السياسي العراقي، ألم يكن للولايات المتحدة الأمريكية تأثير في هذا الشأن؟ دكتور عائد الهلالي، les États-Unis n'ont-ils pas un rôle dans la prise de décision en Irak en rejetant par exemple le nom de Nour el-Maliki, n'est-ce pas une ingérence dans les affaires intérieures irakiennes ?
Oui, l'influence est manifeste. Comme nous l'avons indiqué, l'entretien téléphonique de M. Rubio, secrétaire d'État américain, il y a 3 jours, avec le premier ministre irakien, tout comme les déclarations de Tom Barak, envoyé du président américain pour la Syrie, ont porté explicitement sur cette question. Ils ont affirmé alors, mot pour mot, que l'Irak pourrait commettre une erreur en s'orientant vers la candidature de Maliki, dans la mesure où la politique des États-Unis entre en contradiction direct avec la sienne. La ligne politique d'El-Maliki est connue pour son orientation marquée vers l'Est.
فيما يخص روبيو الرئيس الأمريكي تحدث عن علاقات نور المالكي بإيران وقد يكون هذا السبب من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية السيد عائد الهلالي.
Ah oui, oui, tout à fait. Ils l'ont dit sans détour, les États-Unis ne souhaitent pas cette option en raison des liens étroits qu'entretient Al-Maliki avec la partie iranienne. Cela aurait en réalité un impact majeur sur la nature des relations entre Bagdad et Washington, des relations qui ont pourtant connu ces derniers temps une évolution positive, une ouverture notable des deux côtés, ainsi que l'entrée de nombreuses entreprises américaines. Autant d'acquis qui pourraient être remis en cause. À cela s'ajoute le risque d'un impact sérieux sur l'économie irakienne compte tenu de notre forte interdépendance avec les États-Unis. Les recettes pétrolières transitent par la réserve fédérale américaine, laquelle contrôle les transferts vers l'Irak et influent directement sur le taux de change du dinar. Un tel mécanisme pourrait entraîner une dépréciation de la monnaie avec tout ce que cela implique comme difficulté. C'est précisément pour éviter d'entrer dans des scénarios complexes susceptibles d'altérer la relation avec les États-Unis que, selon moi, les partenaires irakiens s'orienteront vers des ajustements qui pourraient concerner carrément la personne même du Premier ministre.
من جهة أخرى يعني من الجهة الأمنية بعيدا عن السياسة ولو أن الجهة الأمنية مرتبطة بالسياسة عززت القوات العراقية دوريات ودبابات على الحدود السورية كرد فعل على هجوم دمشق على القوات السورية الديمقراطية مما أدى إلى هروب عشرات من سجناء داعش ونقلهم إلى السجون العراقية بدعم أمريكي ما موقفكم من هذا السيد عائد الهلالي؟ Des détenus de Daesh ont été transférés de la Syrie vers l'Irak. Quelle est votre position à l'égard de ce transfert? Quelle est votre position par rapport à ce transfert?
Oui, alors la situation en Syrie demeure extrêmement instable. Je pense que les affrontements entre les forces gouvernementales et les forces d'Assad ont entraîné la fuite d'un très grand nombre d'éléments de l'organisation Daesh détenus dans les prisons syriennes, face à quoi le gouvernement irakien a été contraint de déployer d'importants effectifs de ses forces de sécurité le long de la frontière. Il faut rappeler que la frontière syro-irakienne s'étend sur plus de 600 km. Par le passé, cette vaste zone faite de déserts, de reliefs montagneux et d'une géographie particulièrement complexe avait facilité l'infiltration de l'organisation terroriste, lui permettant de pénétrer et d'occuper de larges portions du territoire irakien. Aujourd'hui, l'Irak a engagé un processus de fortification massive de ses frontières et a demandé au gouvernement syrien, ainsi qu'aux États-Unis d'ailleurs, que les membres recherchés de Daesh impliqués en Irak soient transférés afin d'être jugés. L'Irak a désormais ouvert des centres de détention spécifiques, hautement sécurisés et parfaitement réglementés, capables d'accueillir ce nombre important de détenus. Par ailleurs, la justice irakienne procédera à leur jugement conformément aux règles de droit et aux lois en vigueur dès lors qu'ils sont poursuivis pour des crimes de droit pénal contre l'État irakien. Bagdad a également appelé la communauté internationale à jouer un rôle majeur dans le financement de la période de détention, mais aussi dans les domaines de la protection, de la formation et du renforcement du front intérieur. Il faut le dire clairement, l'institution sécuritaire irakienne et l'ensemble des structures de l'État n'ont plus rien à voir avec la situation d'autrefois, lorsque l'on doutait de la capacité de l'Irak à faire face à ce défi. Aujourd'hui, l'Irak est pleinement en mesure d'y répondre. Nous disposons d'une institution sécuritaire solide, d'équipements de haut niveau, d'armements modernes et de centres de détention inviolables dans lesquels l'organisation ne peut plus manœuvrer comme par le passé. L'Irak jouit désormais d'une stabilité réelle et d'un rejet quasi unanime au sein de toutes les composantes de la société irakienne. Même les segments qui avaient un temps manifesté une certaine sympathie envers Daesh sont détournés aujourd'hui, à la lumière des progrès significatifs réalisés dans leur province en matière de reconstruction et de développement rapide. Le citoyen l'a constaté concrètement et par conséquent, il refuse tout retour en arrière, toute rechute vers le chaos par le soutien ou l'adoption des idéologies de Daesh.
يعني تم نقل هؤلاء السجناء بموافقة من طرف الحكومة العراقية. Donc, et si l'on a bien compris, le transfert s'est fait en coordination ou avec l'accord du gouvernement irakien.
نعم بطلب من الحكومة العراقية.
Oui, à la demande du gouvernement irakien. En effet, pour garantir notre sécurité et nous prémunir contre le danger que représentent ces groupes, car leur maintien en dehors du contrôle de l'État syrien, d'autant plus que de nombreuses factions armées opèrent toujours hors de cette autorité, notamment dans la ville de Hama et ailleurs, pourrait en faire un terreau, voire un instrument, au service de l'idéologie de Daesh. Cela risquerait d'élargir l'implantation des organisations terroristes dans ces zones et, à terme, d'avoir des répercussions négatives sur la relation entre les deux États à travers des infiltrations frontalières ou la création de nouvelles tensions dont nul ne peut aujourd'hui mesurer les conséquences.
دكتور عائد الهلالي شكرا جزيلا سيدي لحضوركم معنا شكرا
شكرا جزيلا
شكرا لك. Aed Hilali est analyste politique, conseiller irakien, proche du premier ministre irakien, Assoudani, et il était avec nous à partir de Bagdad.
Nous voulons que la Syrie devienne un pays très prospère, et je pense que ce leader peut y arriver. Je le pense vraiment. Il a un passé brutal, et je pense franchement que sans passé brutal, vous n'avez aucune chance.
L'offensive de Damas contre les forces démocratiques kurdes a entraîné à Shadid l'évasion de 200 à 1500 prisonniers affiliés à Daesh. La normalisation des relations entre les États-Unis et la Syrie sous Trump intègre Damas à la coalition anti-Daesh, mais semble aussi isoler les Kurdes, les rendant ainsi vulnérables aux attaques de ce groupe que le gouvernement central syrien, sous l'autorité d'Ahmed al-Sharr, combat principalement par la reprise militaire des prisons et territoires des forces démocratiques syriennes kurdes.
إن قوات سوريا الديمقراطية خسرت كثيرا من دعم الحلفاء عندما قررت التخلي عن سجون داعش. إن مخاطرة قسد بفرار سجناء تنظيم داعش أثار غضب الجميع.
Damas, membre actif de la coalition Inherent Resolve depuis fin 2025, coordonne depuis le 21 janvier avec les États-Unis pour transférer approximativement 7000 détenus vers l'Irak et assure la garde de près de 6000 autres mis sous surveillance étroite. Washington déplace les détenus dans des installations irakiennes qualifiées de fiables, une démarche qui marque la fin de la mission initiale des FDS kurdes.
هناك طلب عراقي رسمي من الاتحاد الاوروبي والدول الاوروبيه عموما لكي تتسلم مواطنيها الذين تم نقلهم او سيجري نقلهم من سوريا الى العراق معتقلي تنظيم الدوله. هل تفعل السؤال هل تقبل الدول الأوروبية شيئا كهذا وقد رفضته في السابق؟
دماس prend donc le relais et s'aligne sur la politique Trump de réduction des engagements directs en Syrie tout en maintenant la pression anti-Daesh via l'Irak. Le gouvernement central syrien soulage sa charge sécuritaire immédiate post-offensive kurde permettant de concentrer ses forces sur l'intégration des forces démocratiques syriennes et le contrôle territorial. Le Pentagone déclare que la mission initiale des FDS contre ce groupe a pris fin, car Damas est désormais prêt à prendre le relais en matière de sécurité sur les centres de détention. Washington met l'accent sur sa coordination avec Damas pour réduire sa présence en Syrie via la levée de sanctions, une coordination avec Shara et l'abandon progressif des Kurdes au profit d'un État centralisé.
الرئيس أحمد الشرع أكد خلال استقبال المبعوث الأمريكي توم باراك في دمشق على وحدة سوريا وسيادتها على كامل أراضيها. الرئيس الشرع أكد خلال استقبال توم باراك على أهمية الحوار في المرحلة الراهنة وبناء سوريا بمشاركة جميع السوريين.
L'envoyé spécial Tom Barrack affirme que Washington n'a plus besoin de s'appuyer sur les FDS comme principal partenaire anti-Daesh. Le nouveau gouvernement syrien étant jugé capable d'assumer la sécurité des prisons et des camps. Toutefois, une partie des sénateurs qui ont soutenu les Kurdes ne laissent pas faire sans réagir, même si leur marge de manœuvre reste surtout politique et financière plutôt que militaire. Avec nous en ligne, Monsieur Jürgen Todenhofer, merci d'accepter notre invitation. Vous avez été député au Bundestag. Vous êtes rendu, Monsieur Jürgen Todenhofer, en 2014 en Syrie, dans les territoires contrôlés par Daesh. Vous êtes le premier occidental à le faire. Vous étiez en compagnie d'un groupe que vous avez rencontré après de multiples contact. Étiez-vous le premier ou le seul occidental à vous rendre à Mossoul, ensuite en Syrie?
Je crois que j'ai été le seul, jusqu'à la fin le seul. Ils n'ont plus laissé entrer personne de l'Ouest. Mon impression, que c'était un groupe qui pensait qu'il fallait prendre la revanche contre toutes les guerres des pays de l'Ouest, contre les pays islamiques, contre la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan, etc. Et il y a une longue histoire depuis 200 ans de guerre anti-islamique. Et ils sont venus pour prendre revanche, mais ils ont fait ça avec des méthodes complètement inacceptables. Et les gens que j'ai rencontrés, j'étais beaucoup plus en Irak qu'en Syrie. Je suis parti, je suis arrivé en Syrie par la Turquie. Mais j'étais à Raqqa.
C'est ça, vous avez voyagé de Raqqa à Mossoul.
Et c'était des gens de la Suède, c'était des Allemands, c'était des Anglais, c'était des Américains, c'était des gens parfois un peu bêtes, c'était parfois des gens très intelligents avec une grande carrière dans leur pays, des jeunes, et qui croyaient, qui faisaient partie de l'histoire. Ils faisaient l'histoire eux-mêmes, ils créaient un nouvel état et quelque chose de grand, et pour la première fois dans leur vie, ils étaient importants. Très souvent, la plus grande partie, je parle pas de ces génies que j'ai rencontrés aussi, qui faisaient une grande carrière dans le pays, la plupart n'avaient rien à dire, étaient isolés, étaient poussés dans les corners, on a détruit ou fermer leur petite mosque dans une ville allemande ou dans une autre ville. C'était des gens qui étaient dans une très mauvaise situation, qui ne valaient rien, et pour la première fois, ils étaient part de l'histoire. Ils croyaient qu'ils allaient faire quelque chose de grandiose. Tout ça, c'est une grande erreur.
Monsieur Jürgen Todenhofer, vous dites que c'était des Américains, des Anglais, des Allemands, etc. Donc, c'était des binationaux, c'est ça?
Je ne sais pas si c'était des binationaux. Ils sont venus en Irak et en Syrie. Par exemple, notre chauffeur, c'était un des plus célèbres terroristes. C'était Jihadi John de Londres. Il était toujours masqué. Mais on a reconnu sa voix, c'était le type qu'on voyait à la télévision avec un grand couteau menaçant Obama et menaçant l'Ouest. Il était notre chauffeur. Mmh. Et On avait un groupe spécial de personnes de l'Allemagne qui venaient avec nous, qui étaient toujours près de nous, qui dormaient dans la même chambre au début et après, lorsqu'on voulait nous tuer, ces gens-là, un, deux, c'était le caméraman des exécutions.
Oui.
Donc, toute l'équipe pour nous exécuter était avec nous dans la voiture.
Oui.
Mais nous, on savait pas au début, mais à la fin, on le savait.
Vous avez su quoi à la fin, monsieur Guntedenhofer?
Le Gianni John. Ce Gianni John, qui était toujours masqué, lorsqu'on avait un déjeuner dans un restaurant, il est allé dans une autre salle à côté. Et moi, qui voulais aller aux toilettes, je traversais cette salle et il ne portait pas son masque. Alors lui, il croyait que j'étais un espion, que je voulais dire qui il était, etc. Il a tout de suite interrompu le déjeuner. On a dû partir dans nos petites maisons.
Oui.
Et là, ils ont fait une réunion. Lui, il exigeait qu'il fallait nous tuer immédiatement. Et il y avait un autre groupe qui disait, vous avez la promesse du calife. Et le calife a promis que vous allez rentrer sain et sauf, vivant. Et cette discussion était très, très difficile. Et je connais presque chaque mot de cette discussion. Parce qu'un des terroristes téléphonait le même soir avec sa famille et dit, aujourd'hui, nous avons discuté l'exécution de Monsieur Todenhofer et son fils Frédéric.
Est-ce qu'il communiquait en arabe ou en anglais? Dans quelle langue utilisait-il?
Arabe, très souvent.
Oui.
Et les deux terroristes qui étaient avec moi, ils parlaient presque pas arabe, ils parlaient allemand, anglais. C'était un mélange. Il y avait beaucoup de gens de l'Ouest. Par exemple, j'ai rencontré une fois un jeune blond scandinavien. Et j'ai dit, mais il était tellement blond et tellement gentil. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites ici?
Monsieur Jürgen Todenhofer, c'est tout de même étrange que des personnes qui s'engagent, comme vous nous le décriviez à l'instant, aient peur que l'on les reconnaisse. Comment expliquez-vous cela?
C'est une bonne question. Mais ils avaient des stratégies de venir en Europe, de conquérir l'Europe. D'ailleurs, un des terroristes, après une interview avec un de leurs chefs, m'a dit, je veux vous dire quelque chose, vous avez une garantie ici, dans notre État islamique, mais nous allons venir aussi en Europe et aussi en Allemagne, et vous allez être le premier qu'on va tuer. Donc, ils avaient des plans de venir ici, ils avaient des plans complètement fous, et ils avaient peur que leur famille pourrait être discriminée si l'on trouve leur visage. Donc, quand je suis rentré, les services secrets allemands m'ont montré des photos des terroristes. Ils disent, vous avez connu ceci, vous avez connu cela. Et j'ai dit, vous n'allez pas penser que je vais faire votre boulot. Je connaissais des gens, des terroristes sur les photos. Mais bien sûr, comme étant une sorte de journaliste, d'écrivain, je n'ai pas dénoncé aucun.
Monsieur Jürgen,
alors, ils avaient cette peur que la famille pouvait souffrir.
Monsieur Jürgen Todenhofer, vous avez donc voyagé de Raqqa à Mossoul et vous décrivez un état, disiez-vous, très structuré. Ils avaient pratiquement tout. Vous les décriviez comme un état structuré avec une administration, une propagande sophistiquée financée par le pétrole,
des
disiez-vous.
Juges, des tribunaux.
Voilà, c'est ça, des juges, des tribunaux. Quelles sont les capacités extérieures, en l'occurrence, qui leur permettaient d'acquérir tout cela?
Je crois qu'ils étaient soutenus par plusieurs États. Je ne vais pas nommer maintenant les États que je pense, mais c'était des voisins. Je ne peux pas le prouver, c'est pour ça que je ne dis pas les noms. Mais ils étaient instruits. Ils recevaient des informations, on les a aidés, et c'était pas seulement des pays arabes, c'était aussi d'autres pays.
Quand vous dites...
Et il y avait aussi une chose que je dois mentionner, Kerry, le ministre des Affaires étrangères de l'Amérique.
John Kerry.
John Kerry, il a été demandé une fois, mais pourquoi vous les avez pas combattus dès le dernier jour comme vous auriez pu faire? Et Kerry ne savait pas qu'il y avait un microphone à côté de lui. Il savait pas ça. Et il disait, ouais, on n'a pas fait grand chose parce qu'au début, on pensait que eux, le IS, ISIS, Daesh, pourraient faire du mal à Assad. Donc on n'a pas fait grand chose. Et ça, ça existe en Internet. Vous pouvez l'écouter quand il dit ça. Il ne le savait pas. Mais il l'a dit. Et c'était aussi la réalité.
Quand vous dites qu'il recevait des informations, quel type d'informations recevait-il? De quelle partie parvenaient ces informations?
Je ne vais pas vous dire mes soupçons.
Oui.
Je dis seulement, et là, vous pouvez trouver la solution, c'était pas seulement des pays arabes, c'était aussi d'autres pays, je dirais musulmans, mais il y avait aussi des pays de l'Ouest qui suivaient une stratégie de créer dans les pays musulmans un chaos créatif. C'était une stratégie quand on demandait, moi j'ai pas, je connaissais une part l'élite américaine qui menait ces guerres, et j'ai dit, mais c'est pas une stratégie, et on m'a dit, pourquoi pas? S'ils se tuent entre eux, pourquoi pas? Alors, il y avait ce créatif chaos que, je dirais, les Américains ont regardé. À la fin, ils ont bombardé. Mais qu'est-ce qu'ils ont bombardé? Ils ont bombardé, c'est un crime duquel personne ne parle. Une des villes les plus importantes de l'histoire humaine, Mossoul, qui a l'âge de plusieurs milliers d'années. Et ils ont encerclé une moitié de Mossoul, qui était vite conquis, et l'autre, où on soupçonnait Daesh, ils ont bombardé. Moi, j'étais là pendant ces bombardements. J'étais dans la ville pendant ces bombardements. J'étais dans la ville avec des chars irakiens, et ils ont bombardé tout ce qu'ils pouvaient bombarder. Et l'ancienne ville était encerclée, les gens avaient faim, les gens mouraient de faim. Ils ont détruit complètement. Ils ont tué jusqu'à 70 000 civils dans cette guerre. Et en même temps, ils ont tué à peu près 3 000 membres de Daesh. C'était une guerre incroyable, criminelle, menée par cette coalition anti-Daesh. C'était les Américains qui bombardaient. C'était les Allemands qui envoyaient des avions pour faire les observations dans l'air. Et c'était aussi des Irakiens. C'était horrible. C'est un crime que les journaux, les médias de l'Ouest n'ont jamais commenté. Ils n'ont jamais parlé dessus, ou presque pas.
C'était à l'époque de Nour el-Maliki, qui aujourd'hui revient au devant de la scène. Nour el-Maliki avait constitué des groupes appelés Hashd al-Sha'bi. Vous nous dites que vous étiez à Mossoul, monsieur Jürgen Tödenhofer. Est-ce que l'on pourrait aujourd'hui parler d'une forme de manipulation de ces groupes? Vous nous disiez, il s'agissait de les laisser se battre entre eux. En d'autres termes, les monter les uns contre les autres.
Oui, mais c'est une vieille stratégie. Pour des gens cyniques, c'est une bonne stratégie et ça a toujours existé. C'est vieux comme le monde. C'est une grande manipulation et moi j'étais toujours très surpris. Moi je dis pas que Israël a créé Daesh, mais quand je demandais qui sont les pays que vous voulez attaquer, ils disaient l'Arabie Saoudite et ils nommaient d'autres pays, mais jamais il disait on va attaquer Israël. Jamais. Mais c'était très surprenant. J'ai jamais un mot contre Israël, mais beaucoup de mots contre d'autres pays arabes et contre des pays de l'Ouest.
Benjamin Netanyahou a indiqué qu'il arme bien des clans liés à Daesh, notamment à Gaza, pour faire contrepoids au Hamas. Ça. Oui, il a dit ça. Non. Et il a dit ce qui est certain, c'est qu'il arme bien des clans liés à Daesh, à Gaza.
Il a supporté à la frontière Al-Qaïda. Donc, ça fait partie de la stratégie. Je crois que pour Netanyahu, Daesh est un ennemi. Mais si on peut se servir de l'ennemi pour affaiblir un autre ennemi, pourquoi pas le faire? C'est la stratégie cynique d'hommes qui sont dévoués au pouvoir, qui s'intéressent pour le pouvoir. Et pour Netanyahu, c'est la seule chose qui compte, c'est le pouvoir, jamais le droit.
Quelles sont les conclusions auxquelles vous êtes parvenu, monsieur Jürgen Tödenhofer?
Vous savez, je suis allé après dans d'autres pays. J'étais au nord Yémen, j'ai rencontré les Houthis et j'ai dû traverser une grande partie du Yémen dans un bus complètement autobus normal que les gens prenaient à Aden pour aller à Sanaa. Et je pensais que tout le monde dirait quelqu'un qui voyage dans un bus pour le public, il peut pas être dangereux. C'était la chose la plus dangereuse parce qu'il se disait quelqu'un qui fait ça doit être dangereux. Et j'ai pris ce bus parce que venant de l'Oman, entre Oman et le Yémen, il y a de forces très fortes, de groupes de Al-Qaïda, mais aussi de Daesh. Et sans les Houthis, Daesh serait au pouvoir probablement, ou Al-Qaïda maintenant au Yémen. Tout ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et il y a des forces que j'ai nommées, que je n'ai pas nommées, qui ont un intérêt que ces groupes continuent à exister, Daesh, Al-Qaïda, pour avoir une balance contre les Houthis, etc. C'est tellement sale, cette politique. Je ne peux pas vous le décrire. Pour aller chez les Houthis, je devais éviter Al-Qaïda qui voulait me tuer et le Daesh qui voulait me tuer. Je suis sur leur liste. Et quand même, on attaque les Houthis, mais on les attaque d'une façon de ne pas les détruire. Parce que si on les détruit, on a Daesh ou Al-Qaïda au pouvoir au Yémen, peut-être. Je crois que l'Ouest joue ce jeu avec grand plaisir, le jeu du chaos créatif. Dans les pays arabes, qui se battent entre eux, s'ils se battent entre eux, ils ne peuvent pas se battre contre l'Ouest.
C'est ça, c'est ça.
Et d'ailleurs, Daesh est partout. Vous savez, j'étais voir pour une raison, parce que j'ai créé un orphelinage en Afghanistan, je suis allé voir le nouveau gouvernement il y a 2 ans de talibans pour avoir des garanties pour cet orphelinage, pour qu'on rien n'arrive, rien de mal puisse arriver à ces enfants qui sont là, 25 filles, 25 petits garçons,
oui,
qui ont perdu leur nourrisseur parce qu'un colonel allemand a bombardé, a tué plus de 100 personnes là-bas, ceux qui les nourrissaient. Et Daesh est beaucoup plus dangereux pour la population en Afghanistan que les talibans. Mais c'est une longue histoire, mais ils sont partout. Ils sont pas battus. L'État islamique, qui s'appelle islamique, qui était anti-islamique en réalité, l'État islamique, l'État de Daesh.
C'est parce que cet prétendu État, appelé également Daesh, est constamment financé. Parce qu'on ne veut que ce groupe terroriste cesse d'exister, monsieur Jürgen Todenhofer, selon vous.
C'est pas l'argent qui sert leur survivre. C'est l'idéologie Daesh. C'est pas une armée, c'est une idéologie. Et cette idéologie est en guerre contre l'Ouest, contre anticolonialiste. On peut pas fusiller une idéologie, c'est pas possible. Et en plus, dans les villes comme à Mossoul, on a fait de Daesh des héros. Pas pour moi. Mais entre eux, ils se considèrent comme des héros parce qu'ils étaient attaqués par, je sais pas, 50 ou 100 nations qui les bombardaient, qui faisaient la guerre contre eux. Et ceux qui ont échappé, disons 10 000, 3 000 ont été tués. Le reste a échappé. Le reste se considère comme les héros d'une guerre contre le reste du monde. Et partout où ils arrivent, ils disent, ouais, on a survécu au une bataille incroyable contre le reste du monde. Il y avait une sorte de guerre civile en Irak déjà avant que Daesh arrive à Mossoul. Et tout le monde le sait pourquoi, parce que la guerre contre l'Irak a créé le chaos créatif en Irak. On a détruit un pays. Et après, c'était tout le monde contre tout le monde. Et ceux qui étaient du côté de Saddam Hussein se battaient contre ceux qui étaient chiites qui venaient de l'Iran. Et donc, l'armée de Mossoul, les officiers, ils étaient complètement énervés de cette guerre civile après la guerre des Américains. Et quand Daesh est arrivé, ils ont abandonné. Ils ont jeté les armes et ils sont partis. Ils ont pris la fuite. Chaos créatif.
C'est ça.
Ça fonctionne.
Vous dites, monsieur Jürgen Todenhofer, pour résumer un peu votre propos, il s'agissait à travers Daesh de créer le chaos et ensuite de l'entretenir via des groupes tels que Daesh.
Je ne sais pas si c'était un grand plan avant, mais ça arrivait et le chaos, c'est leur stratégie. Alors, on se servait aussi de Daesh.
Pourquoi?
Mais je pense pas qu'il y avait une stratégie avant créée par des Américains ou des Israéliens ou des Turcs, non. Il n'y avait pas une grande stratégie.
Mais alors,
mais
pourquoi?
Elle se développait tout seul.
Pourquoi? Quel est l'objectif de ce chaos créé?
Ça, c'est un peu plus compliqué. Vous voyez qu'il y a, une guerre après l'autre de l'Ouest contre les pays musulmans. Ça a commencé avec Napoléon lorsqu'il a conquis l'Égypte. Mmh. Il avait avec lui beaucoup de scientifiques. Il recevait l'ordre de créer des instituts sur l'Orient. Et les choses qu'il nous racontait depuis 1892, Napoléon en Égypte, et les universités qui enseignent l'orientalisme, ils disent il faut combattre les musulmans parce qu'ils sont violents, ils sont terroristes, ils n'ont jamais eu une civilisation. Et ça, si vous lisez Edward Said, orientalisme, ça c'est la revanche de l'Ouest contre la supériorité de la civilisation arabe islamique pendant 8 siècles. Ces structures, ces universités orientales, ces instituts ont fait un tellement bon boulot de manipuler ce qu'on pense sur les musulmans.
Monsieur Jürgen Todenhofer, merci infiniment d'avoir été avec nous et d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Monsieur Jürgen Todenhofer, merci infiniment.
Nous voulons que la Syrie devienne un pays très prospère et je pense que ce leader peut y arriver. Je le pense vraiment. Il a un passé brutal et je pense franchement que sans passé brutal, vous n'avez aucune chance.
L'offensive de Damas contre les forces démocratiques kurdes a entraîné à Shedded l'évasion de 200 à 1500 prisonniers affiliés à Daesh. La normalisation des relations entre les États-Unis et la Syrie sous Trump intègre Damas à la coalition anti-Daesh, mais semble aussi isoler les Kurdes, les rendant ainsi vulnérables aux attaques de ce groupe que le gouvernement central syrien, sous l'autorité d'Ahmed al-Sharr, combat principalement par la reprise militaire des prisons et territoires des forces démocratiques syriennes kurdes.
إن قوات سوريا الديمقراطية خسرت كثيرا من دعم الحلفاء عندما قررت التخلي عن سجون داعش. إن مخاطرة قسد بفرار سجناء تنظيم داعش أثار غضب الجميع.
Damas, membre actif de la coalition Inherent Resolve depuis fin 2025, coordonne depuis le 21 janvier avec les États-Unis pour transférer approximativement 7000 détenus vers l'Irak et assure la garde de près de 6000 autres mis sous surveillance étroite. Washington déplace les détenus dans des installations irakiennes qualifiées de fiables, une démarche qui marque la fin de la mission initiale des FDS kurdes.
هناك طلب عراقي رسمي من الاتحاد الاوروبي والدول الاوروبيه عموما لكي تتسلم مواطنيها الذين تم نقلهم او سيجري نقلهم من سوريا الى العراق معتقلي تنظيم الدوله. هل تقبل الدول الأوروبية شيئا كهذا وقد رفضته في السابق؟
داماس prend donc le relais et s'aligne sur la politique Trump de réduction des engagements directs en Syrie, tout en maintenant la pression anti-Daesh via l'Irak. Le gouvernement central syrien soulage sa charge sécuritaire immédiate post-offensive kurde, permettant de concentrer ses forces sur l'intégration des forces démocratiques syriennes et le contrôle territorial. Le Pentagone déclare que la mission initiale des FDS contre ce groupe a pris fin, car Damas est désormais prêt à prendre le relais en matière de sécurité sur les centres de détention. Washington met l'accent sur sa coordination avec Damas pour réduire sa présence en Syrie via la levée de sanctions, une coordination avec Shara et l'abandon progressif des Kurdes au profit d'un État centralisé.
Ahmed al-Sharr akada خلال استقبال المبعوث الأمريكي توم باراك في دمشق على وحدة سوريا وسيادتها على كامل أراضيها. الرئيس الشرع أكد خلال استقباله توم باراك على أهمية الحوار في المرحلة الراهنة وبناء سوريا بمشاركة جميع السوريين.
L'envoyé spécial Tom Barrack affirme que Washington n'a plus besoin de s'appuyer sur les FDS comme principal partenaire anti-Daesh. Le nouveau gouvernement syrien étant jugé capable d'assumer la sécurité des prisons et des camps. Toutefois, une partie des sénateurs qui ont soutenu les Kurdes ne laisse pas faire sans réagir, même si leur marge de manœuvre reste surtout politique et financière plutôt que militaire. On ont participé à ce programme, Dr Aed El-Hilali, conseiller irakien proche du chef du gouvernement par intérim, Mohamed Al-Soudani. Jürgen Todenhofer, ancien député au Bundestag. Jürgen Todenhofer s'est rendu en 2014 en Irak et en Syrie. Il s'est rendu dans les territoires contrôlés par Daesh. L'Histoire en marche a été réalisée par Jalil Akhdar, coordonnée par Sami Haheli. Maryam Abdou vous a accompagné au micro. J'aurai le plaisir de vous retrouver jeudi prochain à partir de 17h. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.